Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la 93.5. Merci pour cette fidélité d'écoute sur la 93.5. Bien sûr, nous sommes au lundi 10 juin de l'année de grâce, bien sûr, 2024 et 11h sur votre radio. Merci de nous choisir pour ce premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitok Betomega est à la mise en onde, Géraud Akoucha assure la mise en ligne, je suis au micro Pascal Lossé. Merci à vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous avez également ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différents canaux digitaux et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi. Lundi déjà, vous savez que Uriel Enyang répond toujours à notre invitation. Uriel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. C'est avec grand plaisir. L'honneur nous revient quand tu nous invites à participer à cette émission.
Et c'est ton honneur aussi pour moi.
Nous venons pour faire notre boulot, informer, éduquer, sensibiliser, former pourquoi pas nos concitoyens, c'est notre rôle. Et on le fera tant que Dieu nous donnera la force, l'intelligence, la sagesse, toutes les facultés nécessaires pour bien faire notre boulot. Nous n'hésiterons pas.
Et nous prions Dieu quand même de nous donner toujours les facultés nécessaires pour le faire. Merci. Celui qui répond toujours à notre invitation aussi, c'est Jacques Dakouti. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Bonjour à nos deux techniciens qui ont allumé leur portable aujourd'hui pour recevoir les coups de fil. J'espère que la semaine sera bonne.
Comment le savez-vous, Jacques?
Oui, mais quand j'étais venu, lui-même, il sait ce que j'ai dit. Donc, je voulais souhaiter également prendre guérison tous ceux qui sont malades actuellement, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans leurs boutiques, qui sont en train de nous écouter actuellement. Nous leur souhaitons vraiment prendre guérison. Pascal, j'ai vu une image tout à l'heure qui m'a fait sourire. J'arrivais dans votre studio ici, j'étais en train de garer. Il y a deux militaires qui voulaient rentrer dans une salle de jeu ici. Quand ils m'ont vu, bon, ils ont fait semblant de démarrer leur moto pour partir. Après, quand je suis venu vers vous, j'ai vu qu'ils revenaient. J'ai fait semblant encore de prendre quelque chose dans la voiture. Et quand ils m'ont vu, ils sont encore repartis. Donc j'ai dit, mais c'est pas la peine, venez jouer à votre jeu.
Président.
Merci beaucoup Jacques pour cette information. C'est humour justement qui commence bien cette émission et démarre même d'ailleurs la semaine chez nous ici au Club de la Presse. Merci. Et merci à nos amis auditeurs, auditrices aussi qui nous suivent. Ils sont toujours fidèles à cette émission. Alors nous démarrons cette émission, mais je ne le laisse pas s'installer d'abord avant de lui dire un petit bonjour. Bonjour Didier.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonjour à mes aînés en studio, je vois un qui est en casquette rouge. Ah, je ne sais pas ce que ça signifie pour
peut-être
les
que c'est un choix.
Mais début de la semaine. C'est un carton accordé au cadet qui vient toujours en retard.
J'espère que tu as bien passé le week-end.
Oui, oui, le week-end s'est bien passé. Bon, avec les histoires que tu connais, donc notre activité de toujours.
Tout à fait.
Mais également en compassion avec les concitoyens qui ont toujours leur lit, leurs pieds et tout ce qu'ils ont dans l'eau. Et on a toujours un regard tourné vers eux. Je vis pas très loin d'un bassin au centre-ville là-bas. Je vois ce que ça donne pour de milliers de personnes qui ne peuvent pas dormir chez eux. C'est très compliqué. Donc, nos compassions à tout ce beau monde-là qui nous suit ce matin.
Tout à fait. Merci beaucoup. Et je passe également par cette occasion pour présenter nos compassions justement à tout ce beau monde-là qui souffre alors de l'inondation dans les différents quartiers alors de Lomé. Justement, nous allons commencer cette émission avec l'inondation parce que c'est en quelque sorte le quotidien du Togolais maintenant. Et c'est vrai que déjà la semaine passée, on a vu déjà même avec le samedi et hier même d'ailleurs, il y a également la pluie, il y a une autre pluie, ce qui peut-être pourra empirer la situation. Uriel, c'est vrai que dans votre journal, ce matin, vous êtes revenu aussi sur le sujet, vous dites inondation en ampleur, le gouvernement rappelle l'obligation du permis de construire. C'est vrai, c'était dans un communiqué rendu public par le gouvernement, je pense que c'était le jeudi dernier, où le gouvernement a d'abord demandé aux populations alors de doubler de vigilance par rapport à ce phénomène alors d'inondation, et aussi le gouvernement rappelle tout simplement l'obligation alors de permis de construire. Je pense que c'est très important.
Très important. Aujourd'hui, je pense que comme nous l'avons titré, c'est un rappel parce que tout le monde sait qu'avant de construire, on doit prendre le permis. Et même si à côté, il y a certaines difficultés créées par l'administration elle-même qui ne permet pas aux propriétaires d'un lopin d'obtenir ces permis-là facilement et construire. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement revient sur ce point qui n'est pas un point de moins au-delà des recommandations émises pour éviter les pires. Il faut dire que tous les quartiers sont inondés aujourd'hui à Lomé. Tous les quartiers, il n'y a pas un quartier que vous allez citer qui ne soit pas inondé. Peut-être, si je n'exagère pas, si vous rentrez à la caisse, là peut-être vous pouvez vous sentir un peu à l'aise, mais tout le reste des quartiers qu'on connaît, c'est inondé.
Et il n'est pas donné à n'importe qui quand même d'habiter la presse, la caisse, j'allais dire.
C'était une parenthèse là-bas. Donc, et là, ça devient si compliqué parce que après la pluie du 25 mai, celle du jeudi passé et celle qui continue par tomber, vous avez constaté avec tout le monde que ça ne laisse pas libre le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui, chaque jour qu'il pleut, est sur le terrain avec ce comité qu'il vient de créer pour permettre de riposter, pour permettre de trouver des palliatifs et ne pas laisser les populations en danger. Nous avons retenu l'essentiel de tout ce que le communiqué a pu dire, mais ce qui a attiré notre attention, c'est que le gouvernement est revenu une fois encore sur l'obligation d'obtenir le permis de construire avant d'entamer les travaux. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que s'il faut être honnête, demander à chaque citoyen à Lomé, les propriétaires des maisons, demander à chacun de brandir son permis de construire, nous sommes tous d'accord qu'on aura à peine 5% de cette population ayant son permis de construire à brandir. Donc c'est un peu compliqué, mais ce qui est encore intéressant, le rôle de l'État, c'est de sécuriser les populations. Donc l'État ne peut pas aujourd'hui dire que tu n'as pas le permis de construire. Donc, même si tu es sinistré, on ne viendra pas à ton secours. Non, je pense que le rôle de l'État, même celui qui est en infraction, on le protège d'abord et après on voit le côté pénal. Donc aujourd'hui, il faudrait que les uns et les autres fassent l'effort pour que les services compétents viennent étudier le cadre, la zone, l'emplacement, l'endroit même où tu veux entamer tes travaux. Je pense qu'on va vraiment être courageux pour demander que cette étude-là soit faite avant que les travaux ne soient entamés. Puisque nous avons constaté aussi que, excusez-moi, peut-être ça peut choquer certains, et les résultats que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile balance chaque soir, mais vous allez constater, essayez d'être courageux et fouillez voir les types de personnes qui habitent où, qui sont sinistrées, qui ne sont pas sinistrées. Vous allez trouver une race qui tourne dans l'eau, que ce soit à Nikonakwe, que ce soit à Goizongo ou que ce soit à partout. Vous allez trouver que c'est une question quelque part, soit de manque de moyens ou soit de mentalité ou de culture. Les gens peut-être se sont dit, je vais construire ici. Quel que soit ce qui va arriver, j'y serai. Mais c'est très dangereux. On va faire un effort, mais en attendant, nous attirons l'attention des autorités que la situation est grave. S'il faut revoir les dispositifs, comme eux-mêmes ils l'ont dit, qui vont renforcer les dispositifs de pompage d'eau au niveau des bassins de Lyon et Caméléon. Il n'y a pas que les deux bassins. Je pense que beaucoup de bassins souffrent ici. Il faut complètement revoir ce qu'il y a à revoir. Prendre toutes les dispositions parce qu'on ne voudrait pas entendre durant toutes ces saisons qu'il y a eu un décès.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Jacques, c'est vrai que, tel que Urel le disait tout de suite, alors la situation est grave et de telle enseigne que tant qu'il y a une nouvelle pluie, la situation s'empire. C'est comme ça que ça se passe maintenant à Lomé. Mais le gouvernement demande quand même qu'il y ait assez de vigilance par rapport aux populations. Il y a des mesures également qui sont prises pour pomper ces eaux. Mais au-delà de tout, on demande également qu'il y ait une obligation, même d'ailleurs pour ce qui concerne alors le permis de construire. Mais au même moment, il y a les tracasseries administratives souvent le citoyen craint.
Vous savez, j'ai eu quand même la chance d'assister à une des réunions où on disait que la pluie du 25, je crois que c'était maintenant, équivalait à 2 mois de pluie. C'est-à-dire que vous voyez, 2 mois de pluie en un seul jour, vous voyez que c'est quand même un peu compliqué. Surtout pour,
et nous avons vu le dégât. Hein.
Voilà, que cela a causé. Quand on parle des bassins, c'est vrai. Je crois qu'il faudrait que l'État aujourd'hui prenne la mesure des choses. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en saison sèche, par exemple, je crois que quand vous prenez, par exemple, Anazap, je crois qu'Anazap a quand même un budget pour pouvoir curer effectivement ces bassins et essayer d'approfondir même encore ces bassins en période de non-pluie. Mais ce que nous constatons, c'est que cela ne se fait pas. Et au même moment, vous allez voir les voies souvent que ces eaux-là empruntent pour aller vers d'autres bassins. Des fois, ces voies-là sont bouchées. Vous prenez par exemple le cas de Lyon la fois passée. En fait, c'est un passage qui est bouché quelque part. L'eau ne pouvait pas passer. Voilà pourquoi ça a créé beaucoup de dégâts à ce niveau. Donc, il fallait attendre un peu pour que l'eau la baisse et voir là où il y a la panne pour déboucher avant que l'eau ne puisse continuer pas à circuler. Donc, c'est la responsabilité de l'État aujourd'hui, en saison sèche, de tout faire pour curer effectivement ces bassins. Essayer de les approfondir encore. Vous avez parlé tout à l'heure du permis de construire. C'est vrai, c'est une bonne chose. D'autres vous diront que c'est un luxe même pour certains. Parce que vous prenez par exemple des gens qui construisent aujourd'hui dans des quartiers les plus reculés. Les gens ne prennent pas le permis de construire. C'est pourquoi on a toujours interpellé l'État par rapport au nouveau quartier aujourd'hui qui se crée. L'État devait prendre la responsabilité de pouvoir créer effectivement ces conditions de vie par rapport à ces populations qui construisent aujourd'hui au niveau de ces nouveaux quartiers. En faisant quoi? Il faut essayer de tracer effectivement ces quartiers, tracer effectivement ces villes en matière d'infrastructure. Aujourd'hui, les gens vont construire. Demain, quand il y a inondation, on vous dira que non, quelqu'un a construit sur le passage où l'eau devait passer. Et finalement, c'est ça qui bloque. Vous voyez, donc ça, c'est de la responsabilité de l'État. L'État doit effectivement agir. Vous savez, il ne faut pas toujours attendre, dire non, c'est eux-mêmes qui sont allés acheter. Ils savent que là-bas, il y a de l'eau. Ils savent que là-bas, c'est un quartier inondé.
Là, Jacques, il y a aussi la responsabilité du citoyen.
Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le premier responsable, c'est qui? C'est l'État. Si par exemple l'État constate que vous êtes en train de construire dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut immédiatement renvoyer ces gens. Parce que si vous les laissez construire, demain c'est les mêmes encore qui vont commencer par vous créer des problèmes. Donc je crois qu'il ne faut pas seulement dire que non, les gens sont allés acheter là où des zones inondables. Mais quand je l'ai dit ici la fois passée, vous savez, quand vous étudiez par exemple la psychologie du Togolais, le Togolais peut gagner, par exemple, 10 000 à la fin du mois. Mais son premier réflexe, c'est d'avoir une maison.
Tout à fait.
Voilà. Et quand un gouvernement, un État, par exemple, connaît la psychologie, par exemple, de cette population, il faut que l'État agisse. C'est-à-dire qu'il faut que l'État se mette à l'avant-garde de cette population-là. Essaie, effectivement, de sécuriser. Sinon, on ne le fait pas. Écoutez, Pascal, nous serons là tout chaque année dire, bon, il y a inondation, il faut qu'on essaie de reloger les gens n'ont pas le permis de construire et tout ça. Vous allez voir que ça sera la même chose. Donc, c'est à l'État de prendre d'abord ses responsabilités. On l'a toujours dit, ces nouveaux quartiers-là devaient être des quartiers d'exemple où on ne pourra plus assister à ce genre de choses. C'est vrai que la pluie ou bien l'inondation, personne ne peut dire qu'il ne peut pas avoir inondation, hein, ça c'est faux. Les pays, même les plus développés, on voit quand il pleut souvent, il y a quand même ce genre d'inondation. Mais il y a des choses que l'être humain même peut éviter. En évitant ça, l'État effectivement de sévir et voir comment prendre effectivement cette disposition-là pour aider les populations que nous sommes. C'est vrai, on a dit tout à l'heure également que L'État doit essayer de voir, quand vous avez suivi un peu le communiqué du gouvernement,
tout à fait,
qui dit que l'État va voir comment prendre soin de ceux qui sont inondés, et tout ça.
Et même il y a un système d'évacuation également,
voilà,
qui sera mis en place.
Ça, c'est des mesures primaires. C'est-à-dire qu'on peut vous le faire aujourd'hui, mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'eau a déjà occupé les maisons. Et puis l'autre aspect, c'est que quand vous voyez Pascal aller vers certains quartiers, vous allez voir que la plupart des puisards dans ces maisons-là sont confondus aujourd'hui également au puits et au forage que les gens ont eu dans leur domicile. Donc, toutes ces eaux-là sont déversées dedans. Et même si en saison, par exemple, sèche, quand les gens vont retourner dans leur maison, si le gouvernement ne prend pas les responsabilités de pouvoir effectivement faire un travail dans ces quartiers avant que les populations-là ne retournent pour pouvoir encore habiter, je vous dis que ça va créer encore d'autres problèmes. Donc, je crois que la responsabilité est partagée. C'est vrai que nous, en tant que citoyens, nous avons une responsabilité, mais la plus grande responsabilité, c'est l'État. Parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant aujourd'hui pour dire que, parce qu'en Europe, on a dit qu'on ne fera plus l'enfant, vous laissez votre enfant, demain, vous allez pleurer. Donc, je crois qu'il faut que l'État prenne la responsabilité de pouvoir, effectivement, aider nous, les populations.
D'accord. Merci beaucoup, Jacques. Disait, c'est vrai, aujourd'hui, on constate tout simplement que quand il y a ces inondations, ces phénomènes naturels, bien sûr, c'est en ce moment, quand même, que l'État commence pas à prendre alors des dispositions. Mais au finish, ce ne sont que des palliatifs. Il est très important, quand même, qu'on prenne des mesures aussi fortes pour arriver à contrecarrer même ces inondations, je pense.
Et généralement, c'est des mesures qui, ma foi, ne répondent pas. Parce que moi, je parle de mon expérience. J'ai été déjà victime de ça. Je vivais Je vivais dans un quartier en 2010 où l'eau était remplie. L'eau a rempli toute la chambre et sortait même par la fenêtre.
Ben,
oui, mais oui, ça c'est une histoire, c'est mon histoire. Je savais de quoi il s'agit.
Quelle était
la solution?
Oui.
La solution, c'était peut-être de nous donner des nattes, un peu de gari, un peu de riz, un peu de maïs. Et on va les préparer où? Pour des gens qui n'ont personne à Lomé, comme nous qui venons de très loin, on va s'installer où? On va préparer le riz là où, manger le gari là où? Avec quelle eau d'ailleurs? Donc, ce que nous disons ici, c'est une question d'ambition, en fait. C'est une question d'ambition. Moi, je me posais la question depuis ce week-end, quelle est notre ambition? De façon individuelle, mais de façon étatique, quelle est notre ambition que nous avons aujourd'hui? C'est l'ambition que nous avons. Est-ce que c'est de voir chaque année des situations pareilles d'inondation et qu'on y aille, qu'on pompe et qu'on demande aux gens de ne pas s'installer et puis ça va repartir pour l'année 2025, ça va repartir pour 2026, ça va repartir pour toujours, où l'ambition, c'est peut-être de voir, de trouver un moyen de mettre en place des dispositifs assez pertinents qui permettent aujourd'hui de, peut-être d'ici 2-3 ans, de trouver une solution définitive à ce problème-là qui continue de gangréner partout, toute la zone de Lomé. Ce n'est plus quelques quartiers aujourd'hui, mais c'est tout le Grand Lomé qui est dans la situation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous voulons? On a parlé du permis de construire. Moi, j'aurais préféré peut-être les logements sociaux au permis de construire. Et donc, qui dit logement social, y compris tout ça, c'est l'État, ou c'est l'État et ses partenaires auraient déjà pris des dispositions pour savoir dans quelle zone il faut construire. Et donc, l'État, si l'État mène un projet, ça sous-entend que l'État lui-même se donne le permis de construire.
Puisqu'il y a une étude qui
se fait. Il y a une étude de terrain qui est faite au préalable. Et aujourd'hui, si on fait des logements sociaux au niveau de la bourse du Togolais, et que des Togolais moyens, ou même de la basse classe, un peu partout, on peut trouver des logements sociaux à leur niveau et selon leur bourse, et qui peuvent payer peut-être sur une période de 5 ans ou de 10 ans, et qu'on fait une vraie promotion qui permet justement aux Togolais d'aller vers là, que de... Ça permettra d'éviter des situations là, dans les 5, dans les 10 ans à venir, plutôt que de laisser aujourd'hui, Jacques disait, les nouveaux quartiers. Qui regarde les gens de Alenka? Qui les connaît? Les gens de, je veux parler de, devant Segbe là.
À Pécito?
À Kato. Qui sait que les Togolais vivent à Kato aujourd'hui?
Non, comment?
Non, mais je parle en termes d'infrastructure. Je parle en termes d'infrastructure. Des gens se battaient là-bas pour. Ils n'ont même pas d'électricité, difficilement. Il y a des araignées là-bas. Des gens. L'Ankouvi, tout ça. Demandez, c'est des zones avec risque d'inondation où il n'y a pratiquement rien, tout manque. Les routes, même pour y aller, c'est très compliqué. Mais les gens sont là-bas. Aujourd'hui, on va demander à ceux qui sont là-bas, maintenant, je connais des gens qui sont là-bas depuis 10 ans, on va leur demander où est votre permis de construire. Ils sont déjà là-bas, il y a un problème. Comment est-ce qu'on règle ce problème? On le règle maintenant et dans le futur, au lieu que l'État laisse les gens aller s'installer et après leur demander d'avoir le permis de construire, l'État prend des dispositions pour anticiper. Un peu comme ça se fait dans certains pays de la sous-région, l'État prend des dispositions pour anticiper sur l'installation des populations. On ne dit pas qu'on met tout, mais si l'État ne peut pas mettre des cités, au moins qu'on prenne la cartographie de la zone ou qu'on interdise l'installation au niveau de certaines zones. On a laissé les gens s'installer à Kégué-Zoubédi. Allez voir quand il pleut à Kégué-Zoubédi. Allez voir à Klobatem là-bas quand il pleut. Mais bon, voilà, c'est des Togolais, ils sont là-bas et tout le monde va accuser l'État. On va accuser l'État parce que l'État a laissé faire. L'État n'a pas dit aux gens d'aller là-bas, mais l'État aurait pu dire aux gens, c'est des zones à risque, n'y allez pas. Et l'État prend des dispositions pour permettre à ceux-là qui ont un peu de moyens de vouloir s'installer, de s'installer dans des zones acceptable et vivable.
D'accord. Alors, Elie Goka, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Je vais très bien.
D'accord. C'est vrai, nous sommes en train de parler de cette question d'inondation et c'est vrai, je ne dirais pas que vous n'êtes pas inondé dans votre quartier. C'est vrai, l'État a fait sortir même un communiqué pour appeler les uns et les autres, surtout les populations, à la vigilance. Et aujourd'hui, tel que Didier vient de le dire, est-ce que on n'a pas plus besoin d'ambition et de vision?
Oui, c'est vrai. Vous savez, les inondations représentent 26% de catastrophes en Afrique. Et entre 1911 et 2001, on peut estimer les victimes des inondations à plus de 3000 en Afrique. Vous voyez, les inondations aujourd'hui font voir aux pays africains le retard qu'on a dans notre développement. C'est bien vrai, on dirait qu'en Allemagne, il y a eu des inondations. Dans des pays développés, il y a eu des inondations. Mais là, nous parlons des inondations qui marquent un passage crucial de notre développement. Vous voyez aujourd'hui, le doyen Jacques parlait tout à l'heure des nouveaux quartiers. On peut considérer que les anciens quartiers, qui sont Nikonakwe, Kodjovia Kopé, Hanukopé et Bay, ont été construits dans des années, au cours des années, où les ambitions n'étaient pas aussi grandes. Mais quand on commence par noter un développement aussi fulgurant de notre cadre urbain, il faut prendre les mesures. Il faut prendre les mesures conséquemment. On devait normalement arriver à pré-urbaniser toutes ces zones-là déjà. L'État devrait normalement définir un cadre bien réglementaire pour dire aux citoyens, ces zones sont des zones à haut risque. Vous ne pouvez pas construire là-bas. Didier disait que l'État a laissé faire. Aujourd'hui, il est vraiment visible que l'État a laissé faire. Et comment corriger le tir? C'est ça le grand problème. Corriger le tir, c'est que aujourd'hui, l'État doit commencer par tout d'abord trouver des solutions alternatives. Vous voyez, la plupart de nos routes, de nos ruelles, n'ont pas de caniveaux. Un petit exemple, quand vous allez au Ghana, même si les routes ne sont pas bitumées, il y a toujours un système de drainage d'eau pluviale qui permet à ce que les routes ne connaissent pas d'érosion, mais qui permet également qu'il y ait un drainage de l'eau pluviale. On n'a pas ça ici. Regardez dans nos quartiers, on n'a pas de caniveaux. Les caniveaux qu'on a dans nos quartiers sont des caniveaux qui datent des années 80, 90, où il y avait encore plus de civisme avec le parti unique. Avec la démocratie, Il y a une certaine responsabilité du citoyen également qui se dit « Ah, nous sommes en démocratie, tout est permis », alors que c'est faux. La démocratie est un système dans lequel on est beaucoup plus regardant dans le devoir aussi bien que dans le droit. Alors, aujourd'hui, il faut responsabiliser les mairies. C'est leur devoir. Le droit central a le devoir aujourd'hui d'aller vers les mairies, de discuter avec eux et qu'ils arrivent à organiser déjà les surfaces qui ne sont pas encore habitées. Il faut que l'État arrive à déterminer, à définir ces surfaces-là, ces périmètres sont habitables. Ceux-là ne sont pas habitables. C'est à partir de là qu'on parlera d'une certaine ambition. Au cas contraire, que l'État même construise des logements sociaux. Parce que l'ambition première ou l'idéal de réussite au Togo, c'est quoi? C'est construire. Le doyen disait même, déjà 26 000, mais ils ont leur maison. Un Zéminiaman m'a pris la dernière fois, il me disait, mais c'est avec ma moto là que j'ai construit ma maison. Il dit, oui, il dit, mais c'est à Pécito, le là-bas. Voilà. Il a sa maison là-bas. Il dit, waouh, avec votre moto, il dit oui. L'idéal de réussite au Togo, quand on parle, on dit quelqu'un a réussi au Togo, c'est que la personne a une maison, il a un chez. Et l'État doit réorganiser tout cela. Aujourd'hui, d'aucuns parlent de Smart City. Quand vous allez un peu dans la commune à Gwenivé 1, le maire Kovia Dambounou a cette ambition en disant que l'avenir, notre avenir, va avoir des préjudices si nous n'arrivons pas à organiser notre territoire. Et on parle des villes intelligentes. Où tout est défini, tout est défini, tout est connecté. Et nous avons ce devoir-là. L'État doit sensibiliser tout d'abord les citoyens à ne pas aller vers des zones à risque, mais l'État même a le devoir de déterminer les zones à haut risque et aider ainsi les citoyens.
Merci beaucoup, Élie. Oui, Uriel.
Vous savez, on va retourner un peu dans la cohérence. Mmh. On dit, en lieu et place, de motiver les citoyens à obtenir le permis de construire avant d'entamer les travaux, l'État, par exemple, devrait promouvoir la construction des logements sociaux. Mmh. Vous savez, on ne peut pas construire un logement social sans avoir obtenu le permis de construire. Le logement social lui-même, en lui, est exigé d'abord le permis de construire. Sinon, on va construire un logement social qui sera incapable d'héberger les sinistrés.
Il y a des études d'ailleurs l'obtention du permis de construire avant de construire les immeubles sociaux.
Nous allons faire un retour dans une cohérence. Quand je me dis par exemple que l'État a laissé faire quand les gens construisaient, je ne suis pas l'État, mais j'avoue que comme tout le monde le sait, la terre aujourd'hui au Togo n'appartient pas à l'État.
C'est des collectivités.
C'est des collectivités. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, depuis que l'ancienne Assemblée nationale avait voté ce nouveau code foncier, pourquoi on ne peut pas le mettre en application pour résoudre d'abord le. Parce que tout ce que nous disons
est lié au foncier.
Tout est lié au foncier.
Tout à fait.
Tout est problème de foncier. Et tant que la terre n'appartiendra pas à l'État, alors nous sommes en train de parler. Croyez-moi, les gens sont en train de vendre des terres à Gwenivé, à Lankouvi, en train de vendre à Tchévié, partout. Les gens sont en train de vendre des terres. Et les acquéreurs sont en train d'acquérir sans renseignement, sans rien,
études,
comme Didier le démontrait.
Et d'autres rien. Sont en train de construire également.
D'autres sont en train de construire. Et se nourrissent d'un espoir qui n'a pas sa place d'être. Et c'est après que les problèmes naissent. Donc, il faudrait que le problème du code foncier soit réglé d'abord pour que la grande partie du territoire revienne à l'État. Bon, quitte à l'État d'asseoir des procédures. Ça, je n'en sais pas comment ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens disent des fois, c'est une belle critique, moi aussi je critique, que pourquoi depuis ce boulevard annoncé de Lomé à Saint-Cassé ne vient pas. J'étais à Kara avant-hier, je dis bien avant-hier, quand j'ai retrouvé là-bas aussi avec les TP, tout ça, ils sont en train de faire les études. Mais tout ce qui coûte plus cher, c'est les indemnisations. Comment délocaliser les gens qui sont au bord dans les emprises de la route? C'est ça même qui coûte même plus cher que le coût de la construction de la route. Donc aujourd'hui, l'État est confronté. Si l'État pouvait plutôt faire une petite marche arrière entamé par la résolution du problème foncier, je pense qu'on s'en sortirait. Sinon, aujourd'hui, même si vous voulez délocaliser quelqu'un qui est dans une zone à risque, la personne n'est pas loin de vous dire non, laissez-moi, je vais habiter là où je suis. Parce que quand vous me dites de sortir, je serai obligé de. Il va avancer des zones. Donc, c'est à l'État de prendre la hauteur pour résoudre ces problèmes. Et quand nous demandons à l'État de résoudre ces problèmes, l'autre souci, c'est que la plupart de ces grandes zones-là, Dieu seul sait à qui elle appartient.
Mais je ne suis pas d'accord avec Uriel. Hein. Mais c'est vrai que j'ai aimé le développement qu'il a fait vers la fin avec la nationale, le Dublin national numéro 1, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Le problème dont on parle, là, il y a de l'eau partout à Lomé, dans le Grand Lomé. Qu'est-ce qu'on fait? Ça n'inclut pas d'indemnisation. Il y vient de dire tout à l'heure que le problème persiste ou devient encore plus important parce que dans la plupart de nos ruelles, le doyen Jacques parlerait peut-être des routes secondaires, il n'y a pas de canalisation. On n'a pas de tuyaux, on n'a rien. On n'a pas de canalisation. À part les bassins, on n'a plus d'autres systèmes qui permettent justement de sortir l'eau des quartiers et des zones. À partir de ce moment-là, quand les bassins seront pleins, le reste où, qui ne peut pas aller vers le bassin, ça reste où? Ça reste dans les maisons et devant les maisons, un peu partout, et les quartiers sont inondés. Pendant ce temps, au lieu que, c'est ce que nous disons, moi je ne dis pas que l'État ne doit pas demander de permis de construire. Je dis, l'État peut demander le permis de construire à ceux qui, peut-être, ont encore des travaux en cours. Mais l'État devrait anticiper et pourrait encore anticiper, c'est pas tard. L'État peut anticiper en commençant par promouvoir les logements sociaux. J'ai décrit comment on peut faire ça. Et pendant ce temps-là, on met en place une politique ambitieuse pour dire, ok, à partir de ce jour, peut-être d'ici 3 ans, on veut sortir de l'eau de tous les quartiers pour l'aîner vers quelque part, soit vers la mer, soit dans un temps vers les lagunes d'abord, ensuite vers la mer ou vers les rivières ou un peu partout.
Donc, du coup,
on pourra envisager une solution à ce problème.
D'accord, merci beaucoup. Oui. Alors, Jacques.
Non, tout dépend de la volonté. Hein. Si à la volonté, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre.
Puisque ça se fait ailleurs.
Nous sommes en train de vivre une décentralisation dans notre pays où on a les mairies dans presque chaque. Arrondissement et autres, doter ces mairies-là des moyens. Je ne sais pas si vous me faites comprendre.
Tout à fait.
Si on dote ces mairies-là des moyens, les mairies peuvent le faire. Je voulais quand même féliciter le maire de Vera Blogamela. Il est de
Golf 1.
Golf 1.
Ouais. Mais quand c'est juste Kwame Gomado.
Quand vous prenez par exemple l'axe hôtel de la paix, il y a un quartier là qu'on appelle à la Glocome pour aller vers EcoBank. Mais il a quand même réussi à bitumer cette voie. Mais je crois que, je vous dis, si dans chaque quartier, je l'ai dit tout le temps dans ce studio, si l'État prend la responsabilité, ne serait-ce que de paver une seule voie dans les quartiers par an, je vous dis que Lomé, on ne va plus vivre ce genre de choses. Parce que, Carl, vous ne pouvez pas, par exemple, quitter un goudron et prendre de la latérite en même temps. Cette route-là ne va pas durer. Et vous allez voir que la plupart, quand il pleut, l'eau ramasse tout et met sur la voie. Et sur ces voies-là, il n'y a pas de canalisation. Mais les routes-là vont s'abîmer. Bon, tout à l'heure, mon confrère parlait d'essayer d'indemniser les gens par rapport à la nationale numéro 1. C'est vrai. Et tout ça, là, c'est un projet ambitieux. Et vous savez, c'est pas seulement, il ne faut pas seulement parler de cette voie. Il y a également la voie ferroviaire également, qu'on peut développer. L'État, il y a beaucoup de choses que l'État peut faire. Pourquoi on dit, tout dépend de la volonté. Si on a la volonté, on peut s'en sortir. Pourquoi certains ont réussi, le Togo ne peut pas réussir avec 8 millions d'habitants.
D'accord.
On peut réussir si on a vraiment la volonté.
La volonté, on pourra y arriver.
Quelqu'un dira qu'est-ce qu'on n'a pas construit en Hollande. La grande question, c'est de se dire dans 5 ans, 10 ans, quelle ville nous voulons au Togo.
Oui,
voilà, c'est ça. Personne ne
répond pas
à cette question.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va quitter le sujet puisque nous avons d'autres sujets à débattre. Donc, oui, je reste toujours avec vous, Méga Info, ce matin. Vous nous apprenez après constat, hein, c'est ce que vous écrivez, après constat, le phénomène de trading incompatible alors au métier des FATS. C'est en quelque sorte ce que vous dites. Et voilà, c'est quoi le souci?
Bon, est-ce que... mais Jacques était bien placé à entamer ce sujet parce
Jacques en parlera forcément.
En début d'émission, Il nous a fait rire un peu ici, mais c'est cela la réalité. Vous savez, le métier des fêtes, c'est un métier un peu très délicat. Si le chef d'état-major général a pu constater que assez de militaires s'intéressent aux jeux de hasard, aux services de trading qui nous créent tous les soucis au Togo ici, dont on en parle souvent. Les promoteurs, après avoir amassé beaucoup d'argent, coupent leurs contacts et disparaissent dans la nature. Et si vraiment les militaires s'intéressent à ces jeux-là, ça sera très compliqué pour la justice de venir à bout de ces malfrats-là. Donc, parce que quand il y a un militaire quelque part, vous êtes d'accord avec moi que pour résoudre un problème, c'est un peu compliqué. Bon, aujourd'hui, si le chef d'état-major sort cette note hein, pour interdire à tous ses agents de continuer par adhérer à ces sociétés de trading et aux jeux de hasard, je pense qu'ils ont mûrement réfléchi. Ils ont fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études et ils veulent mettre fin aux enrichissements illicites, aux enrichissements illégaux. Je pense que s'il y a quelque chose à souhaiter, c'est d'attirer l'attention aussi d'autres responsables. Il n'y a pas que le corps habillé, d'attirer l'attention d'autres patrons de secteurs à voir la façon dont leurs agents aussi s'intéressent à ces jeux de hasard et à ces placements au niveau des sociétés de trading pour qu'on essaie de limiter un temps soit peu les enrichissements qui n'arrangent pas tout le monde. Vous savez aujourd'hui quand vous allez à la banque pour faire un retrait, mais il y a une fiche qu'ils ont sortie, il n'y avait pas ça, ils ont sorti ça il y a à peine 2 mois, où tu renseignes sur l'origine des fonds, la destination des fonds. Tout est sur le papier là et ça prend plus de temps. Donc c'est tout à fait normal, à mon avis, c'est tout à fait normal qu'on demande aux gens, si c'est vérifié, d'arrêter cette forme d'enrichissement, parce que ça peut créer un autre souci. Aujourd'hui, nous sommes ici sur les 5 autour de ce plateau. Tu vas voir que s'il y a un minoritaire parmi nous, son comportement serait autre. Il peut prendre le dessus, il peut causer tous les problèmes. Et quand on parle des hommes armés, il faut faire beaucoup attention.
D'accord.
Donc, je pense qu'ils n'ont qu'à à respecter tout simplement.
D'accord.
Et ça passe.
Oui, Jacques, c'est vrai que même à la population en général, le système alors de trading a toujours causé alors de problèmes. Nous avons aujourd'hui des victimes alors de ce système et finalement qui ne sont même pas, qui n'ont pas retrouvé leur somme investie, même d'ailleurs dans ces trading. Et ils sont nombreux ces gens-là aujourd'hui. Mais quand on parle alors des FATS, ça veut dire que c'est peut-être encore récurrent là-bas, c'est pourquoi ? Dans le secteur ?
Non, je crois que le général a visé sa proie, mais il a tiré dans l'ombre. Oui, c'est-à-dire que ce système-là, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a tellement de victimes, on sait. Il y a les soldats-là qui revenaient de la MINUSMA un peu partout, on se rappelle. Ils ont fait les placements, ce n'est pas aujourd'hui. Ils ont presque tout perdu. Et ça, c'est la responsabilité de qui ? C'est la responsabilité de l'État. Parce que l'État sait. Si aujourd'hui le chef d'état-major général sort ce communiqué, c'est parce qu'un constat a été fait. Le constat fait. Mais qu'est-ce qui... Bon, dites-moi, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce constat? Si certains sont actuellement en prison et que cela continue, mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez un peu partout... Les sociétés de trading là, ça pullule un peu partout. Et l'autre aspect, le constat dont le général, le CMG a fait par rapport à ces services là, il faut reconnaître, il est important qu'il pose effectivement le réel problème au sein des FATS. Pourquoi les FATS se donnent à ça comme ça? Parce qu'un peu partout, même les jeux du hasard là, ils sont dedans.
Tout à fait.
Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il faut poser vraiment le problème.
Ça l'est.
Parce que le problème, il faut relever effectivement leur solde. Et l'autre aspect, vous savez, excusez-moi, quand vous faites une analyse à tête reposée, vous allez voir que la plupart des militaires n'ont pas une femme. Vous allez voir un militaire qui se retrouve par exemple avec 2 femmes, 3 femmes, et avec peut-être 10 enfants. Et ce militaire là, quand il prend par exemple sa solde, Ça ne le suffit pas pour suffire également sa famille. Voilà pourquoi vous allez les voir un peu traîner leur boss dans les jeux du hasard pour pouvoir combler, arrondir effectivement les
Mais gens. Là aussi, c'est la responsabilité
ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut poser le problème. C'est-à-dire, c'est vrai d'interdire, Mais il faut chercher qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens s'adonnent à ça. C'est pas si vous comprenez.
Non, je comprends.
Voilà, c'est parce que quelque part, peut-être ce qu'ils prennent, ça ne les suffit pas. Je ne dis pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose, hein, loin de là. Je ne dis pas que c'est une bonne chose qu'ils sont en train de faire. Mais le constat, c'est que vous allez voir, par exemple, un militaire, quand il prend sa solde, aujourd'hui, lundi, déjà mercredi, il cherche encore à faire un prêt. Vous allez le voir traîner un peu partout. Quel est le problème? Et l'autre aspect, il faut reconnaître qu'il y en a qui ont effectivement des problèmes. Il y en a quand ils font, par exemple, des prêts pour construire, après, ça ne suffit pas. Et à quelques mètres, ils partent à la retraite. Un militaire qui a commencé, par exemple, un chantier, et à quelques mètres, il part à la retraite, attendez-vous qu'il traîne un peu sa bosse quelque part pour pouvoir effectivement trouver quelque chose pour aller construire sa maison. Donc, je crois que ce que le général, le communiqué qu'il a sorti, c'est une bonne chose. Mais l'autre aspect, il faut vraiment poser le vrai problème. Si ça donne à ce jeu, quelque part, c'est vrai que, pas seulement au niveau des militaires, la plupart de tous les Togolais, quand on parle du salaire, ça ne suffit pas. Mais il faut quand même essayer de voir, poser le vrai problème, essayer de revoir également leurs soldes. Et l'autre aspect, quand on parle du jeu du hasard, vous avez vu que, effectivement, dans l'introduction, vous avez vu qu'il a parlé, mais vers la chute, c'est effectivement, c'est les trimmings seulement. Finalement, les jeux du hasard, là, bon, c'était... Je crois que c'est un palliatif.
Non, là aussi,
mais la chute, c'est les trading. Oui. Mais quand on dit qu'on interdit aux militaires de pouvoir aller jouer, mais les gens vont se déguiser. Vous comprenez? J'enlève ma tenue militaire. Je me mets dans une tenue civile. Je mets des lunettes. Non, bon. Je porte une casquette comme l'autre. Je vais jouer. Qui sera? Personne ne saura.
Donc, mais on peut envoyer aussi des personnes.
Voilà, on peut envoyer quelqu'un aller jouer à ma place.
Justement. Alors, Didier, c'est vrai que ce système de trading, ce n'est pas aujourd'hui. Hein, nous connaissons même ce système depuis. Mais est-ce que ce n'est pas l'État même qui laisse faire? C'est-à-dire, l'État donne l'opportunité, même d'ailleurs, à ce système alors de s'installer. Et par après, on défend cela.
Mais je viens de constater, comme tout le monde, à travers le communiqué ou la note de service du général, qu'il y a encore des sociétés de trading qui sont actives.
Ils sont là.
Actuellement, yes. Sur le territoire togolais, et qui continuent de collecter de l'argent sur de paisibles citoyens togolais, y compris nos amis et chers, alors là, très chers amis militaires, on leur collecte de l'argent. Et certainement que déjà, il y a des problèmes et certains militaires n'arrivent pas à rentrer dans leurs fonds et menaceraient. Ces agents-là, et que le général a eu vent et a commencé par sortir. Et je suis tout autant étonné que le ministère de l'économie et des finances et d'autres départements d'État n'ont pas pris la mesure de la situation pour rapidement prendre les gens-là, prendre les sociétés-là et leur demander de donner des comptes, de leur demander des comptes.
Ils sont en prison.
Non, mais il y en a en prison, mais il y a d'autres encore qui pullulent. Oui, ceux qui sont en prison, là. C'est pas eux qui continuent de collecter de l'argent. C'est d'autres encore qui continuent de collecter de l'argent. Au vu, là, au-dessus de nos amis militaires qui devraient normalement les prendre.
Et même qui participent.
Et maintenant, eux-mêmes, ils placent leur argent là-bas. Et le CMG, si j'étais à la place du CMG, je dirais même rien. On ne devrait rien dire. Si le chef d'état-major général ne doit pas s'inscrire dans une logique de « on sauve toute la population togolaise »
et que c'est les militaires
et que c'est seulement les militaires qui l'intéressent, alors là, je vais peut-être accuser le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, là, qui ne joue pas son rôle de la protection du citoyen lambda, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de protéger ces éléments. Et donc, et nous les autres, nous tout le monde là, qui nous protège?
Ça viendra.
Ça viendra quand? Il faut justement que l'action de l'État soit coordonnée. Si on veut empêcher les sociétés de trading de continuer de prendre de l'argent chez les citoyens, on mène une action coordonnée et on prend les gens là et on leur demande de rendre compte. Parce qu'on a déjà un dossier. Et tous les gens là, certains sont morts dans cette affaire. Les gens sont partis en exil. Certains ont fui, certains sont encore en prison dans cette histoire de trading. Et on a arrêté les responsables. On a dit qu'ils devraient travailler pour rembourser les gens. Ils n'ont jamais remboursé qui que ce soit. Et ceux qui devraient mourir sont morts. ceux qui devraient être en prison ont été jetés en prison par les patrons. Ceux qui devraient fuir pour partir en exil sont partis en exil. Et là, on nous reparle encore de trading. Et c'est seulement une note de service pour dire que les militaires ne doivent pas être là-bas. Alors là, il faut que l'État prenne la mesure de la situation. Et que s'il y a des gens arrêtés, qu'on les arrête et qu'on empêche directement ça.
D'accord. Élie ?
Oui. Oui, en 2021, vous le savez très bien, le Togo a été donc à l'actualité de ces sociétés de trading. Et je me rappelle très bien que ces sociétés promettaient jusqu'à 300% hein, aux Togolais.
Tout à fait.
À ceux qui faisaient les placements chez eux. Et quelques mois plus tard, les gens commençaient pas à se plaindre, les citoyens commençaient pas à se plaindre, parce que les illusions qu'ils ont fait valoir auprès de ces citoyens, ils n'arrivaient pas à entrer dans leurs droits. Et ça a déclenché une forte actualité dans le pays. Et vous savez que le ministre Sani Yaya, en mars 2021, avait sorti un communiqué interdisant l'exercice ou le service de trading dans le pays.
Les activités de trading dans le pays.
Et on peut citer même...
Mais il a invité par la même occasion ces sociétés-là à venir régulariser leur situation.
Oui, il y avait Global Trade Corporation, Cassespeak, Prosperity Investing Corporation.
Ils sont nombreux.
Ils sont très très nombreux. Alors, après, c'est le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers qui également a réagi en invitant donc ces sociétés à se régulariser. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que ces sociétés sont en règle d'exercer leurs activités au Togo ? Qu'est-ce qui aujourd'hui motive ces activités ? Quelles sont les conséquences négatives que ces activités ont sur l'économie du pays ? On sait déjà que c'est des milliards selon ce qui était dit en 2021, mars 2021, que quand on fera le total de tout ce que ces sociétés ont pris chez les citoyens...
Plus de 60 milliards.
Plus de 60 milliards.
Voilà. À l'époque, oui.
À l'époque, plus de 60 milliards. Et donc, cet argent, cette forte somme est passée par où ? Ça a servi à quoi ? Quels ont été donc ces impacts négatifs sur l'économie du Togo, l'économie du pays ? Et maintenant, si ces sociétés continuent d'exercer encore leurs activités sans avoir l'agrément requis, pourquoi aujourd'hui on voudrait l'interdire à une corporation donnée ? Que l'État prenne ces mesures pour dire aux Togolais, dans leur ensemble, que les sociétés de trading sont autorisées au Togo. Les sociétés de trading sont autorisées au Togo à telles conditions. Voici les conditions qui régissent leurs activités. Et si l'État togolais interdit formellement et exclusivement les exercices ou les activités de trading au Togo, que les citoyens en soient informés. Parce que du moment où ces sociétés s'installent et exercent leurs activités, le citoyen lambda se dit « Ah, ils travaillent. » Et parfois, en 2021, moi-même, je suis allé aux investigations. Ils ont des papiers bizarres à vous montrer en disant qu'ils sont autorisés. Ils ont l'agrément, ils ont ceci et cela. Ils ont leur 4 CFE, tout ça. Est-ce que tout cela justifie l'exercice des activités de trading au Togo ? Il faut que l'État réagisse. Il ne faut pas seulement circonscrire donc cette interdiction au FATS.
D'accord, merci. Oui. Voilà, Irel.
Non, Pascal, tu sais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les confrères
en parlant
de la circonscription de cette interdiction. Didier, je pense que tu n'as pas voulu aller en profondeur, hein, mais chaque papa protège ses enfants. C'est le chef d'État-major général des FAT qui a parlé, ce n'est même pas un ministre. Donc, lui, il est dans son rôle. Si notre ministre, par exemple, constate ou bien la HAC constate que nous, en tant que médias, nous avons un souci par rapport à un phénomène, ils vont attirer notre attention. Ils peuvent même nous interdire des actions. Vous voyez ? Donc, je pense plutôt qu'il revient à chaque responsable de chaque secteur, s'il faut même aller au niveau des départements ministériels, s'il trouve que le placement, le phénomène de trading, les jeux de hasard n'arrangent pas leurs agents, quitte à eux de prendre les dispositions. Le monsieur ne fait que jouer son rôle parce que nous faisons face à un corps. On parle de fat. Imaginez un fat qui une fat qui s'enrichit sur le dos des trading, mais ça devient un danger.
Oui,
donc c'est pour dire tout simplement que chaque responsable, les responsables de chaque secteur doit prendre les dispositions. Si ce phénomène n'arrange pas ses agents, il prend les dispositions. Ça, c'est pour finir.
Oui.
Moi, je n'ai pas compris dans le communiqué ce que je n'ai pas compris, pourquoi le général de brigade a parlé des jeux de hasard. Pourquoi il a parlé des jeux de hasard?
Quand vous lisez le corps,
il a parlé que le trading.
Justement, c'est pourquoi il ne fallait pas qu'il en parle. Vous savez pourquoi?
Non, pourquoi?
La Lunato, c'est un jeu. C'est un service qui nous fait jouer au jeu de hasard.
Il paie les impôts.
Oui, c'est un jeu de hasard.
Lunato, c'est une société de l'État.
L'État promeut les jeux de hasard partout
sur le territoire.
Raison de plus pourquoi on n'en parle pas dans ce communiqué. Raison de plus, ça veut dire que c'est légal. Donc, on va interdire à un militaire d'aller jouer
à la Lunato.
Ah,
peut-être.
Le général va le dire.
Jacques. Vous savez, souvent, chez nous, on dit qu'on ne joue pas avec quelqu'un qui a discuté avec le serpent dans le jardin d'Éden.
Ah bon?
Oui, on ne joue pas avec cette personne. Vous comprenez? Quelqu'un qui a discuté avec le serpent dans le jardin d'Éden, tu as une personne, tu ne peux pas avoir un problème avec cette personne.
Parce que tu ne sais pas ce qu'ils se sont dit.
Ils se sont dit, justement. C'est-à-dire que quand on dit bon, qu'il y a trading, il y a ci et ça, mais quels sont les promoteurs de ces trading-là? Quels sont les promoteurs? Parce que souvent, qu'est-ce que les gens disent? Non, c'est parce que j'ai vu tel investir que je suis allé. Parce que si c'est tel, mais c'est une caution morale. Je ne sais pas si vous comprenez.
Tout à fait.
Voilà. Parce que n'importe qui ne peut pas aller verser son argent au niveau, effectivement, de ces sociétés-là. Et on a vu, vous vous rappelez, dans le passé récent, où il y avait un jeune qui se gousillait sur les réseaux sociaux, que lui, il a eu des milliards auprès de c'est-à-dire que son cousin ou bien son oncle.
Auprès de son oncle.
Vous vous rappelez de ça? Non, c'est pour vous dire que quelque part, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que le CMG, il a sorti un communiqué, mais il est venu dans un monde trop tard et trop vieux. Parce que cette situation l'a perdu là depuis. Et on a vu des militaires, quand ils sont revenus, quand les militaires la revenaient, par exemple,
de leur mission
au Mali ou autre, on a vu comment les gens sont allés placer leur argent au niveau de ces sociétés. Mais rien n'a été dit. Parce qu'entre-temps, on avait eu des échos qu'il y a même les hauts gradés, les hauts placés qui avaient également placé leur argent là-bas. Donc je crois qu'il faudrait que le CMG commence par là. Il n'a qu'à frapper par la tête. C'est-à-dire que s'il ne frappe pas la tête, mais écoutez, les autres là, ils pourront se plier. Et l'autre aspect, quand il parle du jeu du hasard, là où je suis d'accord avec lui, il faut reconnaître que, Pascal, quand vous vous donnez à ces jeux-là, vous n'allez pas prospérer. Et vous allez voir la plupart de ceux qui jouent, ça donne par exemple à ces jeux, vous allez voir, excusez-moi, souvent quand ils quittent par exemple...
Mais déjà qu'il y a des gens qui ont construit dans ça.
Oui, non, j'arrive. Quand vous les voyez sortir, moi je fais souvent le constat, quand je descends chez vous ici, il y a une dame là qui a une petite chambre, elle a, comment on appelle, un rideau blanc là. Dès qu'ils quittent la salle de jeu là, ils vont là-bas. Vous voyez, donc, et puis quand vous voyez leur physique même, ça crée problème. Donc
d'accord.
Je crois qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un de le faire, mais ce qu'il a dit, il faut reconnaître quand même qu'il y a un danger dedans.
D'accord, merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on termine ce débat avec ce sommet Afrique-Corée du Sud qui a eu lieu la semaine dernière, et c'était les 4 et 5 juin dernier, bien sûr. Nous avons connu même d'ailleurs des sommets avec le continent. Il y a eu même d'ailleurs le sommet Afrique-France, le sommet Afrique Russie, le sommet Afrique-Italie. Alors, décidément, tous les pays aujourd'hui qui émergent veulent faire un sommet avec l'Afrique, c'est ça?
Oui, il ne reste qu'à faire un sommet Sri Lanka-Afrique, la Barbade-Afrique, ou si vous voulez encore, Haïti-Afrique finalement. Mais en tant qu'Africain et panafricain dans la tête et dans le cœur, je suis foncièrement contre ce genre d'initiative. Moi, je serai dirigeant togolais, je n'irai jamais à de pareilles.
Mais pourquoi,
à de pareilles
Didier,
Non. Mais vous imaginez, dans les années 60, à l'indépendance des pays africains, est-ce qu'on pouvait comparer un pays africain avec la Corée du Sud?
Non.
Ce n'était même pas possible. Donc ça veut dire que pendant 60 ans, nous avons dormi, nous nous sommes jetés dans la paresse, et 60 ans après, la Corée que nous dépassons là, que c'est cette Corée-là qui fait un sommet et invite tout un continent. Ce n'est pas une insulte pour nous là, c'est vraiment une insulte pour nous. Je suis d'accord que la Corée du Sud s'est véritablement développée, s'est industrialisée et est vraiment aujourd'hui un pays développé. Il y a de la technologie, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre chez eux là-bas. Mais au point à faire un sommet où nos dirigeants sont là-bas, sont allés, personnellement, je ne comprends pas ces fois. Je ne comprends pas les dirigeants africains.
D'accord.
Il faut éviter de se ridiculiser certaines fois. Je crois que c'est ce que la Corée a voulu faire avec nous. Vous nous dépassiez il y a 60 ans. Aujourd'hui, venez voir ce que nous avons fait. Et ils sont allés justement pour regarder. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils ont compris la leçon de la Corée, qui promet maintenant venir nous aider, venir nous... Mais c'est de l'insulte pour tout un continent.
D'accord. Élie, c'est vrai qu'il y a des accords qui ont été signés. Pratiquement, on parle de 37 accords signés entre des États, enfin, les États, la Corée et d'autres États africains. Alors, finalement, c'est quelque chose. Hein. Il y a même également de l'argent que la Corée prend pour, en quelque sorte, aider le continent.
Je voudrais d'abord rebondir par rapport à ce que disait tout à l'heure Didier, pour dire que c'est bien vrai que dans les années 60, la Corée du Sud n'atteignait pas réellement le niveau du Togo ou des pays africains.
Par exemple, oui.
Togo, par exemple. Et que c'est à partir de 1963 que le Togo a commencé par lier une relation, disons, diplomatique avec la Corée du Sud. Mais il faut noter essentiellement que la Corée du Sud, qui a subi la guerre de la Corée en 1953, et MacArthur, qui était le général américain qui avait dirigé cette guerre, disait à l'époque que la Corée du Sud mettra 100 ans avant de se développer. 1953-2013, les rapports de la Corée du Sud sur son évolution économique ont été intitulés « Le miracle économique coréen ». Et donc, la Corée du Sud devient un modèle que les pays africains peuvent copier. Un modèle économique, un modèle de réussite. Et c'est bien vrai, on peut accuser les États africains aujourd'hui d'aller à ce sommet et qui rassemble tout un continent avec un pays. Mais les pays africains n'ont pas connu les mêmes influences diplomatiques et coloniales que la Corée du Sud. Après les indépendances, les pays africains ont connu assez d'influences colonialistes ou disons post-colonialistes qui ont entraîné son développement. Aujourd'hui, on sent même dans le discours des chefs d'État africains, et notamment du président Faure Gnassingbé, qu'ils décident de rentrer dans un nouveau paradigme avec d'autres puissances économiques qui naissent. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un exemple. Quel que soit le fait que de par le passé, nous avons été au même ou plus que dans le développement, aujourd'hui, je pense qu'on peut s'inspirer de leur modèle.
D'accord.
Et c'est ce que les chefs d'État africains tentent de faire.
Donc, 60 ans après, on va maintenant aller s'inspirer.
Uriel n'a pas suivi les mêmes influences.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas quelque chose à apprendre de la Corée du Sud?
Bon, moi, j'étais en terminale lorsque nous avons étudié de ces pays. Aujourd'hui, c'est un peu délicat. Vous avez bien fait d'amener ce sujet en dernière position. Même s'il n'y a pas le temps, c'est un peu délicat. Là, c'est compliqué.
Compliqué en quel sens?
C'est très compliqué parce que l'Afrique devient un continent de sollicitude éternelle. On peut faire quelque chose. Sans aller vers
les autres.
Ce n'est pas une façon de dire qu'on ne les aime pas. Non, loin de là. Nous avons les compétences, le savoir-faire, l'intelligence, tout. On a tout. pour se développer sans aller vers ces gens. Mais notre façon d'y aller. Regardez même hein, cette mobilisation pour aller revenir. Vous savez combien ça coûte?
Ça coûte.
Ça là, ça peut même bitumer la route Pagouda chez moi. Hein. Sincèrement. Donc, il faut laisser tomber.
D'accord, on laisse tomber. Merci beaucoup, chers confrères, puisque nous allons maintenant donner la parole aussi à nos auditeurs hein, qui s'impatientent à rentrer en ligne pour rentrer dans ce débat, bien sûr, avec nous. Alors, 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 115. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Alors, de ce lundi, premier auditeur que nous insérons. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, Nestor. Comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord. Allez-y.
Me permet de construire très bien. Moi, je pense que c'est un peu anachronique puisque les villes sont déjà bon, je pense que la politique maintenant doit être la construction d'être à niveau des logements sociaux. Voilà, la question, qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures? Quand, par exemple, la Corée du Sud sécurise les matières premières pour financer à coût des milliards ces entreprises qui vont venir en Afrique pour exploiter les matières premières, détruire l'écosystème. Nous, qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures? Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor. La question reste posée. Qu'est-ce qu'on laisse à la prochaine génération? 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Deuxième auditeur. Allô? 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Niamavo.
Niamavo.
Allez-y.
Oui, concernant les inondations, vous citez les zones non approuvées, l'État ne connaît pas là-bas. C'est les camions viennent qui ont tracé la route. Même les zones approuvées, comme ils connaissent, vous connaissez les inondations. Quand vous dites quitter, revenir au trading dont vous parlez. Vous savez, Jacouti a dit quelque chose, que les personnes de morale, qui disent les. Parce que la gestion était là, ils m'ont montré des vidéos de Maïmouna tout à la TVT. Avec le directeur de Catastique, le directeur Hugo, qui a financé le projet à gauche de Maïmounatou via la TBT, je me suis dit que ah, là, des choses se posent du sérieux. Et je suis allé faire le prêt, venir investir. Et maintenant, avant d'aller, ils m'ont emmené sur les lieux. Et il y avait des militaires qui sécurisaient les lieux. Ah, je me suis dit que là, quelque chose se fait autrement, c'est bon. C'est la Lunoa qui a sorti le communiqué en premier, après une semaine, le ministre de l'économie et des finances sur le communiqué. Mais depuis là, ça nous parle de la paquette. Certains l'ont dit, certains sont déjà morts, certains ont pris la poudre d'escampette, pour ne pas, c'est-à-dire pour fuir les dettes qu'ils ont engrangées dans certains comptes. On ne comprend plus rien. Écoutez bien, l'État essaie de jouer la politique de l'Autriche en cachant sa tête, même la grande partie du pays. Pourquoi je le dis? Si le chef d'État-major dit aux militaires, au corps habillé, de faire attention, or, c'est eux qui sont censés de prendre les sociétés illégitimes là, en même temps que c'est illégal. La gendarmerie est où? La police est où? On laisse ça, et puis on sort un simple communiqué pour dire aux militaires. Et en laissant les pays d'être citoyens, ils se piquent. C'est pour dire que s'il y a encore les pays, disons la vérité, il y a un moment manque. Excusez-moi.
Merci beaucoup, Niamavo, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Ah, décidément, il n'a pas de retour, Michel. On place un autre auditeur, 22 21 33 114. Allô? Allô, oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Comment vous allez?
Très bien.
D'accord. Votre nom, c'est?
Oui, c'est Pélé.
Pélé, allez-y.
Bon, c'est à ce qui concerne le communiqué du chef de l'État-major. Bon, je pense que ce communiqué, on interdit aux forces de l'ordre de ne pas faire les jeux du hasard. C'est ça, non? ou bien le trading.
Bon. Le trading, justement.
Alors, bon, le trading, justement. C'est comme un jeu qui n'est pas bon. Alors, lorsque ce n'est pas bon pour les mystères, c'est bon pour les tenues, c'est la question qu'il faut se poser. Quand ce n'est pas bon, automatiquement, il faut intervenir. Maintenant, je pense que les forces de l'ordre ont trouvé occasion pour gagner un peu de guerre. Bon, quel est le retour qu'on leur donne maintenant? On sait ce que ça veut dire quand les forces de l'ordre se fâchent. Comme dira l'autre, quand la femme se fâche, le secret est où? Bon, en ce qui concerne le sommet de l'Afrique sud-coréenne, je pense que le chef de l'État togolais a fait un discours qui est très apprécié par beaucoup des Africains. Je ne sais pas comment vous décortiquez ce discours-là sur le plateau là-bas, le discours du chef de l'État, ce qu'il a fait en ce qui concerne la jeunesse de la sous-région. Merci.
Merci beaucoup, Pélé. 22 21 314 91 36 63 75. Allô.
Bonjour, mon directeur Pascal.
Bonjour, papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau.
Bonjour.
À mon fils, Damé Yabouti, il va parler de. À Lomé, le terrain, c'est une loterie. Il va l'acheter. Si tu n'as pas chance, c'est l'eau, l'inondation. Ceux qui ont chance, ils n'ont pas d'eau. Donc, il ne faut pas critiquer, condamner. Et ceux qui ont acquis leur terrain. Quelqu'un a parlé, c'est un terrain approuvé, c'est à l'État. Il en fait, mais il n'a pas fait. Ce ne sont pas les patrons de rétention, c'est les canibaux. Ils ne prennent pas en compte les canibaux, ça va être des problèmes. Nous qui avons les collègues, bientôt, ils sont bouchés, comment ils font des souterrains. Deuxièmement, le crédit dont vous parlez, Monsieur Pélé, comment interdire aux militaires seuls de ne pas faire? Si nous sommes honnêtes, comme le dit du côté moral, mon fils Diakoti, si vous êtes vraiment honnête et vous craignez Dieu, si vous déposez 100 000 francs dans une banque, l'intérêt c'est à peine 5%. Vous n'avez pas la fin de l'année, peut-être 5 000. 100 000 francs. Et on va venir dire aux gens que s'ils déposent 300 000 francs, redémarre, ils auront 5 ans. Mais ceux qui sont allés, je ne les accuse pas, mais ce n'est pas normal. Ça, c'est de l'argent volé. Il y a un truc là, je vais retenir. Merci beaucoup.
D'accord, merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention. 22-21-3314. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est
Basile.
Et vous?
Ça va, Basile?
Ah, je vais vous parler. Mais ça me semble que vous vous étonnez que pourquoi Corée va appeler toute l'Afrique. Mais quand on va continuer par venir sur les ondes se gloser qu'on est dans la 5e République, au lieu de dire clairement qu'on a fait un coup d'État constitutionnel, aussi longtemps qu'on va continuer par le faire comme ça. Pourquoi est-ce que ces pays ne vont pas nous dépasser? D'une année lumière même, ils vont nous dépasser. On ne va pas s'offusquer pour ces genres de choses. Au lieu de venir, c'est-à-dire que quand les gens viennent parler de ça, c'est comme ils attendaient qu'on fasse un coup d'État. Moi, je ne comprends pas. On interdit maintenant aux forces de l'ordre. Est-ce que c'est eux seuls les citoyens? Pourquoi ils vont là? C'est la misère indescriptible que nous vivons tous dans le pays. C'est ça. Il n'y a personne qui ose le dire. Mais pourquoi est-ce qu'on va rester comme ça éternellement? C'est ce que moi je me demande. Tant que les journalistes, moi c'est dans cette affaire, c'est les journalistes. Hein. Il n'y a pas quelqu'un que je vois. Il y a trois professeurs plus que les journalistes. C'est dans ça que moi je suis. Merci à vous.
Merci Basile pour votre intervention. Je ne sais pas ce que les journalistes ont fait. 22 21 33 114. Allô.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
Votre nom, Johannes.
Oui.
Allez-y.
Écoutez, j'aurais préféré que le chef d'état-major interdise plutôt aux militaires de racketter les citoyens à tout bout de champ. Plutôt qu'ils nous sortent un communiqué pour dire qu'il leur interdit de jouer au jeu de hasard. J'aurais préféré ça. Ça aurait plus d'impact dans la société, sur la société, dans la population, et cette interdiction-là. Et je pense que cette annonce ne fera pas long feu. Peut-être lui personnellement, depuis avant qu'il ne soit chef d'état-major, ça le dérangeait de voir des corps habillés
aller se mettre dans les rangs pour jouer à ces jeux. Je pense que ça le dérangeait personnellement. Maintenant qu'il est à ce poste, il a voulu sortir cette interdiction-là. Ça ne fera pas long feu. Tout simplement parce que les militaires constituent une grande clientèle pour la Lonato. Voilà. Et la Lonato ne va pas se voir amputée de cette clientèle-là. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Soit c'est bon, c'est pas bon pour toute la population. Soit c'est bon. Donc c'est ça.
D'accord.
Et pour finir avec le sommet, le fameux sommet Corée-Afrique. Écoutez, c'est très simple. Je ne sais pas, j'aurais aimé quand même, parce que depuis la semaine dernière, vous débattez de ce sujet. J'aurais aimé savoir sur les 54 pays africains, si les 54 sont allés ou bien
donc,
il y a...
48.
48.
Justement.
Voilà. J'aurais aimé savoir quels sont ces pays-là qui n'ont pas voulu honorer à cet engagement. Ça serait intéressant comme information.
D'accord.
Merci.
Ok. Merci beaucoup, Johannes. Je pense, Michel, nous allons avoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission 22-21-33-114. Allô? Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Très bien.
Votre nom, c'est?
Alain.
Alain, depuis Kodomé, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Allez-y.
J'aimerais qu'on me définisse un état. Qu'est-ce qu'un état? Là, c'est quand une minorité prend la majorité en otage. C'est ça qu'on appelle l'état. Ça doit être terminé.
C'est bon?
C'est bon.
D'accord, merci beaucoup Alain. Je pense, Alain, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi. Nous revenons en plateau pour faire un tour de table et clôturer l'émission comme d'habitude. Élie, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Oui, tout d'abord, je voudrais réagir par rapport au sommet Afrique-Corée pour dire tout simplement que ce que les uns et les autres disent par rapport à ce sommet relève de ce que je peux appeler une certaine désolation. Désolation du fait que on aurait aimé être à la même hauteur que la Corée aujourd'hui. Mais la Corée et les pays africains n'ont pas connu les mêmes histoires en termes d'influence diplomatique, d'accords ou de coopération bilatérale entre les pays africains et les grandes puissances, notamment la France a été considérée en Afrique francophone comme la plus grande puissance qui a eu des relations bilatérales ou qui a des relations bilatérales avec les pays africains.
Et qui a tellement influencé ces pays.
Aujourd'hui, les États ou les chefs d'État africains tentent de reconsidérer un certain nombre d'accords, de reconsidérer un certain nombre de coopérations et tentent de chercher d'autres partenaires étrangers, d'autres partenaires diplomatiques pour pouvoir consolider ou renforcer leur développement. On ne peut pas les accuser sur cet aspect. Mais ce que nous estimons qu'il faille faire de mieux, c'est que ces accords profitent suffisamment aux pays africains. Que ces accords ne tournent plus beaucoup plus en déséquilibre de l'Afrique, parce que le chef de l'État, ou plusieurs chefs de l'État l'ont dit, le chef d'État togolais également l'a dit, que ils estiment qu'aujourd'hui, il faut des accords qui profitent beaucoup plus aux pays africains. Et surtout en termes de gouvernance, il est important que cela soit fait ainsi.
D'accord, merci Élie. Et Uriel?
Alors moi, je reviens juste un peu sur un auditeur, j'ignore un peu son nom, qui demandait pourquoi c'est l'actuel chef d'état-major général qui interdit aux militaires les jeux de hasard et de trading. Non, chacun a son passage. Chacun a ses sujets, chacun a ses intentions. Il y en a, le général Maganawe avait demandé le repli de toutes les forces de sécurité au domicile des gens. Donc c'était son passage. Il y en a aussi qui avaient marqué leur passage en refusant qu'on arrête les camions transportant le bois au niveau du péage. Donc chacun marque son passage. Donc lui, il est arrivé, il a trouvé qu'il y a un phénomène qui n'arrange pas son secteur. Il indique qu'il faut l'interdire. Donc on ne peut pas dire pourquoi les prédécesseurs n'avaient pas intimé cet ordre-là, hein, pour que les militaires ne jouent pas au jeu de hasard. Donc lui, il est arrivé, il a pris son courage. Et il a fait. Donc on attend de voir si ça sera respecté ou ça ne sera pas respecté. Mais j'insiste, je le redis, la Lonato aussi, c'est un jeu de hasard. Donc s'il faut interdire ce jeu-là au corps militaire, au corps habillé, je pense que là, ça va poser un petit problème. Ou bien la Lonato ne fait pas partie des jeux de hasard là, d'accord.
D'accord. Et Jacques ?
Non, je crois que Papa Subiti a dit l'essentiel. Vous savez, placer son argent à la banque et chaque mois vous avez quand même quelque chose sur le compte est plus profitable que quand vous dites de venir placer votre argent quelque part et puis que vous puissiez gagner à 100% ou 300%. Voilà. Donc c'est pour vous dire, il faut que les gens évitent le gain facile. Et pour les chrétiens, les musulmans, ils vous le diront. La Bible a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Vous ne pouvez pas vous asseoir et que l'argent tombe du ciel comme ça. Il faut reconnaître également que la manne ne tombe plus. Hein? Il n'y a plus de manne qui tombe du ciel. Il faut que vous puissiez travailler avant de pouvoir manger. Donc, nous invitons à nos compatriotes. Vous qui avez cet argent-là, allez investir dans les champs. Allez investir dans le commerce et ça va vous rapporter. Au lieu de déposer cet argent, un individu un matin prend cet argent et il fuit. Et voilà ce que nous sommes en train d'assister. Il y en a qui sont effectivement paralysés à vie. Il y en a qui sont là, leur mental même, c'est plus ça. Donc je crois qu'il faudrait que les gens fassent très attention.
D'accord. Et Didier ?
Non, ce que nous disons, moi je vais parler aussi, on a tellement parlé de chez nous, je veux parler encore de chez nous. Il faut justement que, au-delà de ces sommets, pays, tel pays Afrique, que nous voulons, si nous voulons véritablement copier sur les exemples des autres, il faut que nous ayons de l'ambition. Il faut que nous ayons de l'ambition et que nous soyons tous des patriotes et que nous aimons nos pays, notre continent et que nous cherchions à faire mieux, à mettre nos compatriotes, nos concitoyens dans de bonnes conditions. Et je pense que en Corée du Sud, ils peuvent avoir leurs difficultés à eux, mais nous, nos difficultés de tous les jours maintenant, c'est les inondations, les coupures d'électricité. On peut multiplier les problèmes un peu partout.
Et la Corée n'a pas quand même fait des sommets alors pour régler ces problèmes-là.
Bon, on n'a pas eu besoin de sommets pour trouver des solutions comme ça en Corée du Sud. Donc, je pense que nous pouvons être encore plus patriotes, être encore plus panafricanistes, aimer ce continent, aimer nos pays.
Avoir de l'ambition.
Donc, quand on dit qu'on aime nos pays, on aime nos concitoyens, on ne va pas aimer les voir vivre dans certaines conditions.
D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Votre carton ou votre note de fin d'émission, puisque nous l'avons changé depuis, Elie, votre note de fin d'émission, c'est de 0 à 10, et c'est pour une institution, une personnalité, hein, par rapport à une action posée. Votre note ?
Malheureusement, Pascal, je n'ai pas de note aujourd'hui.
D'accord, pas de souci. Alors, Uriel, qui a toujours des notes objectives ?
Oui, je suis venu avec une note objective aujourd'hui.
D'accord.
Et je donne 3 sur 10 à tous les conseils de la commune Agogne V5.
Et c'est objectif ?
Golf 5. Il s'agit de la commune Ouaboka, le maire est maire. Et là, franchement, je ne sais pas pourquoi durant 3 ans, monsieur, les conseillers, vous regardez cette eau-là en face de la FUSEC à Tochi. Ça veut dire que l'eau, quand il pleut, vous ne pouvez pas passer, rentrer au marché. Alors, je vous parle, vous ne pouvez pas passer. Ça veut dire que l'entrée du marché est bloquée sur les pavés là-bas. Et il suffit d'une petite pluie, vous avez plus d'un mois d'eau là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil de cette mairie-là ne peut rien faire. Mais si vous arrivez là-bas, ça avilit le quartier Tochi. Mmh. Et c'est à l'entrée même du marché de Tochi, en face de Fisek, et où il y a UTB à côté. Non, franchement, c'est pas bien.
D'accord. Et c'est 3 sur 10.
Oui,
3 sur 10. D'accord. 3 sur 10, c'est médiocre. Hein?
Oui.
D'accord. Et oui, Jacques?
Non, je voudrais donner une note de 9 sur 10 au centre de cancérologie de Lomé, CCL. Vous savez, Pascal, actuellement, il y a un phénomène dans notre capitale ou dans notre pays. Je ne sais pas pourquoi le cancer sévit actuellement comme ça au sein de nos compatriotes. Je ne sais pas ce qui se passe. Je voudrais que
on dira vraiment... qu'on mange mal.
Oui, donc je voudrais donner vraiment 9 sur 10 à ce centre à travers leur promoteur, la clinique Hôtel d'Élie, Agenou et son épouse, qui ont effectivement créé ce centre pour aider nos compatriotes.
D'accord, merci beaucoup Jacques. Oui, Didier.
Ma note est légèrement au-dessus de celle de Uriel. 4 sur 10 au sélectionneur des éperviers du Togo, Monsieur Duarte, qui nous fatigue tout le temps avec on a bien joué. Cette histoire-là, on a bien joué, c'est ça on veut. Jouer mal, mais gagner, non? Ou bien 4 sur 10 à Monsieur Duarte.
4 sur 10 à Paul Duarte. Alors, merci beaucoup, cher confrère, d'être venu alors dans cette émission. Et merci à vous tous qui nous avez suivis aussi, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou, je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.